Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Première journée de cotation pour Deliveroo à la Bourse de Londres, la plateforme de livraison de repas. L'introduction a viré au fiasco ce soir. Le titre clôture en baisse de plus de 26%.
C'est ce qui s'appelle rater son entrée en scène. Une chute de 26,3% pour le premier jour de cotation de Deliveroo, alors même que le groupe de livraison venait de revoir en baisse son prix d'introduction en bourse, comme si le livreur s'était trompé d'adresse. Un coup à ne pas recevoir de pourboire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, c'est le podcast d'actualité des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal pédale et puise dans ses ressources pour vous proposer le traitement en une vingtaine de minutes d'un sujet qui fait l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Deliveroo a déraillé et pourquoi le champion des livraisons ne devrait pas pour autant mettre pied à terre.
Il n'y a plus rien dans le frigo, hein?
Ok, on se fait un Deliveroo?
Dans le placard non plus, il n'y a rien. Hein.
Ok, on se fait un Deliveroo.
Je crois qu'on n'est pas chez nous là en fait. Hein.
Oui, Deliveroo n'est pas comme chez lui à la Bourse de Londres. Je le disais, l'action a chuté pour son entrée dans la cour des grands et depuis elle n'est pas parvenue à changer de braquet pour remonter la pente boursière. Que s'est-il passé pour l'une des introductions en bourse les plus emblématiques de ce début d'année en Europe? Pour essayer de comprendre, il faut revenir à la base et au modèle même de la plateforme de livraison créée en 2013 à Londres et qui a connu une ascension rapide jusqu'à cet IPO.
Tout est allé très vite. Deliveroo a en effet été lancé à Londres il y a 8 ans et maintenant, l'introduction en bourse est faite.
Clotilde Briard est journaliste aux Échos.
L'entreprise, elle a rapidement trouvé sa place, car si la demande était très différente de celle d'aujourd'hui, évidemment à cause du Covid, cette demande existait. C'était assez nouveau en Europe à l'époque, même si je pense que beaucoup peuvent s'en rappeler, il y a une société comme Allo Resto qui avait fait figure de pionnier. Elle s'est lancée en France dès la fin des années 90, mais avec un modèle différent reposant sur les livreurs des restaurants eux-mêmes, qui apportaient donc déjà des pizzas et des plats chinois à domicile. Et puis depuis, Allo Resto a intégré Just Eat Takeaway, un concurrent justement de Deliveroo.
Deliveroo est à présent installé dans 800 villes à travers le monde. Il livre 6 millions de clients par mois pour le compte de 115 000 restaurants, épiceries ou commerces. Derrière ce succès, il y a un homme, Will Shu. Comment est-ce qu'il a eu l'idée de créer Deliveroo?
Alors, Will Shu, qui est le cofondateur de Deliveroo, est né aux États-Unis. Il est né dans le Connecticut. Il travaillait à New York et il a vu se développer la livraison dans une ville qui est forcément active 24 heures sur 24. Et c'était visiblement un bon client. En tout cas, lorsqu'il a déménagé à Londres pour des raisons professionnelles, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas aussi facilement se faire livrer un repas. Il a flairé qu'il y avait une niche et puis il s'est engouffré dans cette niche avec un de ses amis d'enfance, Greg Orlovsky. Depuis, il est resté seul aux manettes du groupe.
Il n'a d'ailleurs pas hésité à mettre la main à la pâte, si j'ai bien compris, du moins au début.
Il a même été le premier livreur de Deliveroo. C'est lui qui a récupéré la première commande dans un restaurant italien. L'établissement s'appelait Rosso Pomodoro et se trouvait à Chelsea. Et bonne nouvelle, quand même, malgré le Covid, le restaurant existe toujours. En tout cas, la première commande n'avait rien de spectaculaire. Il s'agissait de 2 pizzas, une calzone et une margarita. Et la petite histoire raconte que la margarita est arrivée chez les clients à l'envers. En tout cas, même si a priori les pizzas doivent à peu près rester droites dans leur boîte, Will Shu fait encore lui-même de temps en temps des livraisons. C'est sa façon de prendre le pouls du secteur. En revanche, cet entrepreneur qui a une 40aine d'années demeure un homme très discret. Rien à voir avec Elon Musk, le patron de Tesla, qui se met en permanence en scène sur les réseaux sociaux. Hormis quelques détails, finalement, et même au moment de l'introduction en bourse, on s'aperçoit que l'histoire de Deliveroo n'est pas particulièrement mise en valeur par l'entreprise. Il n'y a pas de storytelling très fort derrière la marque. Et d'ailleurs, sur Twitter, Will Shu a moins de 3000 followers, ce qui s'explique puisqu'il a rien posté depuis quelques années, alors que on sait le patron de Tesla, on a 50 millions.
Une pizza à l'envers pour la première livraison de Deliveroo. Et j'ai d'ailleurs retrouvé la première publicité télé réalisée par le groupe. C'était en 2017.
And this time, it's all for you. It's savoring the moment. It's so much more than food. Deliveroo.
On entend le champion de slam Harry Baker raconter ses moments de partage, de souvenirs, de repas et savourer ces moments mémorables que les gens se sont créés autour de la nourriture. On peut même voir subrepticement un jeune homme jugé sur un skate en forme de pizza margarita, comme un clin d'œil à cette success story. Clotilde, on le disait, Deliveroo a connu un succès rapide, de la margarita à la Bourse de Londres en moins de 10 ans. La croissance est forte, mais qu'en est-il de sa rentabilité ?
La rentabilité reste le nœud du problème du secteur et donc de Deliveroo. Dans une année hors norme à cause du Covid, comme 2020, cette année spécifique que nous venons de vivre, la valeur des commandes, TVA incluse, a bondi de 64% et a représenté 4,7 milliards d'euros. Cette forte hausse de l'activité, ça a bien sûr un effet bénéfique sur les comptes. La marge brute a grimpé de 89,5% et les pertes se sont réduites. L'excédent brut d'exploitation sous-jacente Deliveroo donc s'est rapproché de l'équilibre. Il n'était plus dans le rouge que de 9,6 millions de livres contre 231,6 millions l'année d'avant. Mais quand même, on se rend compte que la perte nette, qui s'est elle aussi réduite de 29%, reste encore de 223,7 millions. Donc, même dans des années euphoriques, si on peut dire côté commande, la rentabilité n'est pas encore complètement au rendez-vous.
Et la société a profité, vous le disiez, du contexte sanitaire, des confinements à répétition dans les pays où il opère. C'est vrai que c'était assez pratique de se faire livrer à la maison quand on n'avait pas le droit de sortir, notamment après 18 heures. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand sera-t-il lorsque le monde, et on espère que ça viendra vite, aura retrouvé son rythme d'avant le Covid.
Alors, bien sûr, partout et surtout en France, les gens piaffent d'impatience de retourner au restaurant. D'ailleurs, on n'a jamais autant parlé d'eux que depuis qu'ils sont fermés. Mais c'est pas pour autant que la livraison de repas va disparaître du paysage. Elle s'est quand même déjà bien installée. D'abord, sa montée en puissance date d'avant la pandémie. De nouvelles habitudes ont commencé à prendre place. Avec le Covid, elle a séduit de nouveaux publics plus âgés, plus familiaux qui ont découvert son existence. Et forcément, ça va quand même perdurer, même avec des restaurants ouverts, comme une troisième voie d'accès à des petits plats. Rien que pour la France, Food Service Vision estime que la livraison pourrait peser 19% des ventes des restaurants en 2024, contre seulement 7% en 2019. Donc ça laisse quand même des possibilités de développement.
Ouais, et pour les restaurants aussi, hein, c'est une autre façon de toucher un public peut-être plus large, et peut-être de fournir aussi des produits un peu moins chers, ou de toucher un nouveau public. En attendant, c'est un secteur qui reste concurrentiel ?
Alors, la concurrence bat son plein, chacun cherchant à prendre des positions. Et puis, cette concurrence, elle n'est pas la même d'un pays à l'autre. Chez nous, on a trois poids lourds que sont Just Eat, Uber Eats et Deliveroo. Ailleurs, on trouve Delivery Hero ou DoorDash. La tendance est plutôt à la consolidation par zone géographique et tous les pays ne se révèlent pas forcément accueillants. Deliveroo a ainsi jeté l'éponge en Allemagne en 2019, faute d'avoir réussi à y trouver sa place.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Quelques jours après son entrée en bourse difficile, Deliveroo a tenté l'humour ce 1er avril en faisant croire à une cliente qu'elle avait commandé 38 pizzas aux anchois pour une facture de 466 euros, mais heureusement avec 50 sauces piquantes gratuites. Le temps que vous lisiez ce mail, votre commande sera en cours de livraison. Nous vous souhaitons d'avance un excellent appétit. Peut-on lire sur le mail adressé à Justine. D'autres clients choisis par la plateforme ont reçu un message identique en forme de poisson d'avril, tollé sur le web. Et excuse un peu honteuse de la société pour la frayeur, on se dit d'abord qu'il faudrait vraiment arrêter avec cette utilisation commerciale du 1er avril et laisser ça aux enfants. Et puis on se demande ensuite si le groupe britannique n'aurait pas perdu son mojo.
I've lost my mojo!
Pourquoi les investisseurs ont-ils boudé les actions Deliveroo à Londres ? C'est la question que j'ai posée à Laurent Flalot, éditorialiste aux Échos.
L'introduction en bourse de Deliveroo est un cas d'école, tellement elle cumule de facteurs qui l'ont menée au fiasco. En ce qui concerne les grands zinzins britanniques, les investisseurs institutionnels, comme on les appelle, il y a au moins deux raisons qui ont douché leur enthousiasme. La première, c'est le timing. C'est comme pour votre commande, hein, Pierrick, la pizza doit arriver chaude et à temps. Là, elle est arrivée froide et trop tard. Froide parce que toutes les valeurs technologiques ont essuyé une forte bourrasque boursière avec la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis depuis mi-février. Tout le secteur de la high-tech est valorisé à très long terme et des taux plus élevés réduisent mécaniquement sa valeur. Et en retard, parce que le choix d'une cotation en fin de trimestre n'était pas très judicieux. C'est le moment où les grands investisseurs polissent la performance des fonds qu'ils vont présenter à leurs clients et ils sont donc généralement peu enclins à prendre des risques. Donc voilà pour la première raison. La deuxième explication, ce sont les considérations de gouvernance et de comportement social de Deliveroo.
Oui, en quelque sorte, la qualité de la pizza, pour qu'on comprenne bien.
Oui, c'est tout à fait ça. Plusieurs grands zinzins ne l'ont pas trouvé du tout à leur goût. Les assureurs Aviva et Legal & General, ainsi qu'Aberdeen, qui est l'un des gérants des pensions des veuves écossaises, ont refusé de partir à l'opération. D'abord parce que le patron fondateur, Will Shu, a verrouillé le contrôle de son groupe pendant au moins 3 ans. Il va conserver 58% des droits de vote, alors qu'il n'aura qu'un intérêt économique de seulement 6% au capital. Si c'est courant aux États-Unis, ce genre de disposition est très mal perçu à la City. Et ensuite, parce que les livreurs de Deliveroo sont considérés comme des travailleurs indépendants et non pas comme des salariés. Un tiers d'entre eux auraient gagné moins que le salaire horaire minimum au Royaume-Uni, soit l'équivalent de 10 € de l'heure sur l'année écoulée, selon une enquête du Bureau of Investigation Journalism. Ce dumping social a été considéré par beaucoup de gérants comme condamné dans la durée. Uber vient d'être contraint par la Cour suprême britannique d'offrir un filet de sécurité à ses chauffeurs de VTC. Et certains juristes pensent que cela pourrait être bientôt le cas pour les livreurs d'Uber Eats. Deliveroo va donc rester dans l'histoire comme la première introduction en bourse à connaître un début chaotique pour des motifs extra-financiers, de gouvernance et de politique sociale. Mais il y a quand même eu assez d'investisseurs à répondre présents pour que l'opération aille à son terme.
Moins 26% en une séance, la première séance. Aucune IPO n'avait fait pire à Londres, en tout cas de mémoire de trader. C'est aussi un échec pour les banques chargées du placement qui se sont emmêlées les fourchettes sur le prix.
En effet, le Financial Times, qui fait autorité à la City, a baptisé Deliveroo la pire introduction de l'histoire de la place de Londres. La fine fleur de la banque d'affaires a été obligée de manger son chapeau dans cette affaire, en particulier les deux chefs de file de l'opération, Goldman Sachs et JP Morgan. C'est toujours facile de dire a posteriori que le prix de l'offre n'était pas le bon. En l'occurrence, les 7,6 milliards de livres de capitalisation boursière, soit 8,8 milliards d'euros, représentaient une petite prime, moins de 9%, sur la valorisation en bourse du concurrent néerlandais Just Eat Takeaway. Sa valorisation rapportée aux revenus. Mais au moins autant que les ratios de valorisation, ce qui importe, c'est la façon dont le processus d'estimation de la fourchette de prix se construit. Il semble que Goldman Sachs et JP Morgan aient ignoré les chiffons rouges agités par l'establishment financier de la City sur la gouvernance et sur la responsabilité sociale. Les médias se faisaient rassurants, alors ils parlaient d'une demande des investisseurs qui aurait dépassé de 4 à 5 fois l'offre. En haute fourchette, à 4,60 livres par action, Deliveroo aurait été valorisé au-dessus de 10 milliards d'euros, soit autant que Renault en bourse est pas très loin de Carrefour, avec qui il est allié. Et lorsqu'à la surprise générale, le prix final s'est inscrit finalement en bas de la fourchette, à 3,90 livres par action, malgré cette supposée forte sursouscription, certains hedge funds se sont dit qu'il y avait eu un loup en cuisine. Ils ont senti l'odeur du sang et ont attaqué le titre dès l'ouverture en lui faisant perdre plus de 30% en séance. Goldman Sachs a soutenu le titre à bout de bras. Ils ont acheté massivement des titres sur le marché pour 75 millions de livres. Ça représentait, d'après les calculs du Financial Times, un quart des volumes des deux premières séances, en vain.
Détail croustillant dans le portrait dressé de Will Shu par Sabine Delanglade dans Les Échos. Après l'université, celui-ci a travaillé comme analyste dans une banque. Avant de retourner à la fac, il aurait dû avoir un peu plus de flair pour l'IPO. Deliveroo, c'était la plus grosse introduction en bourse à Londres depuis 10 ans. C'est aussi un camouflet, ou du moins, Laurent, un avertissement pour la Bourse de Londres.
On peut dire que c'est même un Dunkerque pour la place londonienne, qui est en pleine crise existentielle. Quand la Bourse de Paris se regarde, elle se désole, mais quand elle se compare à celle de Londres, elle peut se consoler. En 4 mois d'entrée en vigueur du Brexit le 1er janvier, Londres a perdu son rôle de première bourse européenne au profit d'Amsterdam. Elle n'a toujours pas obtenu l'Union européenne, ses passeports financiers dont elle a besoin pour conserver certaines activités sur son sol. Avec Deliveroo, elle rate une occasion de faire la démonstration qu'elle dispose du réservoir d'investisseurs capable de prendre des risques pour faire vivre la cotation de valeur de l'économie de demain. Ça fait beaucoup. La Bourse de Londres est plombée par la vieille économie des mines, du pétrole, de la finance traditionnelle qui pèse lourd dans ses indices. Elle est engoncée dans un corpus de règles qui a été pensé comme une protection de l'investisseur, mais qui apparaissent dépassées dans un contexte de bulle boursière. Ces règles lui ont fait rater la vague des fameux SPAC, ces véhicules boursiers qui facilitent les les introductions en bourse de sociétés à connotation technologique. Une vague qui a été bien prise par Amsterdam, par Francfort et même par Paris. Certaines de ces règles ont favorisé le flop de Deliveroo, le flopperou, comme l'appellent désormais les journaux. Il y a par exemple l'impossibilité pour les banques d'ajuster la fourchette de prix en cours de processus, ce qui a un peu coincé Goldman Sachs et JP Morgan. Il y a aussi l'exclusion de Deliveroo des indices à cause de ses particularités et qui font que la gestion indicielle, et notamment les fameux ETF qui drainent des flux massifs d'investissement, n'ont pas le droit d'acheter des actions de Deliveroo. Le gouvernement de Boris Johnson réfléchit à l'assouplissement de la réglementation. Un rapport a été commandé à l'une des figures de l'establishment, Lord Jonathan Hill. Il a mis sur la table des propositions qui déplaisent à la frange la plus conservatrice de la City. Et l'introduction de Deliveroo s'est en fait retrouvée l'otage de ce débat existentiel.
Alors Deliveroo a mis en bourse un peu plus de 21% de son capital. Dans un premier temps, les échanges ont été réservés aux investisseurs professionnel avant une ouverture au grand public depuis le 7 avril, il y a quelques jours. Est-ce que les petits porteurs nombreux à avoir réservé des titres seront plus sensibles au profil de Deliveroo malgré ce modèle social contesté?
Il se trouve que justement, le 7 avril a été la première journée de hausse du titre depuis sa cotation et jusqu'à présent la seule d'ailleurs. Donc il semble qu'il y ait un petit intérêt du public, mais pour l'instant il est insuffisant pour renverser la tendance. Les volumes d'échanges notamment restent très en deçà de ce qu'ils devraient être d'après les experts. Pourtant, près de 70 000 investisseurs individuels ont souscrit jusqu'à 1 000 livres par personne, soit 1 150 € pour un total de 50 millions de livres. Même si cela représentait moins de 3,5% de la taille de l'offre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. L'investissement outre-Manche est une affaire sérieuse, essentiellement réservée aux grandes institutions. Les banques n'aiment pas démarcher les petits porteurs et seulement 7% des introductions à Londres sur les trois dernières années comportaient une offre au public. Deliveroo voulait faire une fleur à ses clients, à qui étaient réservés les titres. Celles et ceux qui ont placé 1000 livres ont aujourd'hui 350 livres de moins. Cela fait beaucoup de pizzas quand même.
Ouais, ou d'hamburgers, parce qu'ils ne livrent pas que des pizzas. Laurent, rassurez-nous, on peut rater son entrée en bourse et ne pas rater sa vie boursière?
Comme l'a très bien dit le chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, pour relativiser le flopperou, les actions s'amontent et ça descend. L'un des pires ratés des introductions à Londres s'appelle Ocado. C'est l'e-commerçant qui avait chuté de plus de 7% lors de sa première séance en 2010. Et le titre est aujourd'hui la cinquième performance de la place depuis sa cotation. Il a été multiplié par 12. L'un des meilleurs exemples est aussi celui de Facebook en 2012. Sa première séance de cotation à New York est restée dans les annales à cause de l'impossibilité d'établir un prix d'échange dans les premières heures à cause de l'insuffisance des systèmes informatiques. Morgan Stanley conduisait l'IPO, a dû massivement acheter le titre qui a finalement clôturé en très légère hausse de 0,6% avant de s'effondrer dans les deux jours suivants de près de 20%. Depuis, le titre a été multiplié par 8 et c'est aujourd'hui la cinquième capitalisation boursière mondiale. On peut donc dire que tous les espoirs sont permis à Deliveroo et à son patron Will Shaw.
Dans l'histoire, le groupe y a donc gagné un surnom. Flopperou. Mais pour autant, Clotilde Briard, Deliveroo n'a pas tout perdu.
Deliveroo, de toute façon, a levé de l'argent et avec cet argent, espère bien continuer à grandir en développant de nouveaux services. Bien sûr, il y a la livraison telle qu'on la connaît avec la personne qui sonne à la porte, mais il y a beaucoup d'autres choses qui existent derrière et la plateforme poursuit la création de lieux qui accueillent les dark kitchens, ces cuisines sans salle qui sont louées à des acteurs de la restauration qui veulent déployer la livraison mais pas à partir des restaurants où ils accueillent le public. En France, par exemple, la troisième dark kitchen de ce genre de Deliveroo vient juste de démarrer à Aubervilliers. Donc ça, c'est un axe important de développement pour Deliveroo. Il y en a un autre qui, lui, est aussi en pleine accélération. C'est la livraison des courses du quotidien, son shampoing, son paquet de pâtes, par le biais d'alliances avec de grandes enseignes. Et ça, c'est un mouvement que connaît le groupe et que connaissent aussi ses concurrents et qui est quelque chose d'important sur lequel il faut assez vite prendre des positions. Et puis, l'autre chose, c'est que l'entreprise veut se rendre indispensable en B2B auprès des restaurants en ajoutant des outils comme Signature qui vient d'être lancé et qui permet d'avoir accès à des solutions de Deliveroo, mais sur le les propres sites web et les applications de chacune des enseignes, ce qui permet un côté de marque blanche d'une certaine façon, qui permet aussi de prendre pied un peu plus auprès du secteur.
Deliveroo vient d'ailleurs d'élargir son partenariat en France avec Carrefour pour un service de livraison rapide de courses à domicile. Le service existait déjà en Belgique, en Italie et en Espagne et il sera lancé à Paris cette semaine avant d'être étendu dans plusieurs grandes villes dans les prochains mois.
My name is Harmo Bjarnason. I'm a musician here in Berlin. And I'm also a delivery rider.
Il s'appelle Hördur, il est islandais d'origine, producteur de musique, DJ et livreur Deliveroo à Berlin. C'est l'un des portraits que l'on peut découvrir sur le compte YouTube de la société. Celui-ci date de 2016. Deliveroo compte sur environ 100 000 livreurs. On les reconnaît aux énormes sacs verts qu'ils portent sur le dos et à la maigreur de leur portefeuille, constatait Sabine Delanglade dans Les Échos. Le sort des livreurs à vélo et à scooter de ces spécialistes du circuit court interpelle de plus en plus jusqu'à la bourse. On en parlait avec Laurent. L'Espagne se prépare à reconnaître le statut de salarié de plein droit pour ses coursiers. Ça s'appelle la loi Riders. D'autres pourraient suivre. On le disait, un Deliveroo cherche encore son modèle économique rentable. Quel peut être l'impact d'un éventuel changement de statut des livreurs ?
Alors, l'impact des changements possibles des statuts des livreurs sera forcément important. On le voit bien, il y a des nouvelles règles sociales qui sont en train d'émerger dans des pays comme l'Espagne, où vient d'être adoptée la loi Riders, qui considère les livreurs comme des salariés et non plus comme des travailleurs indépendants. Et donc, ça va évidemment avoir un impact pour Deliveroo. Ou en Italie, où le parquet de Milan exige la régularisation des livreurs. Donc ça, de toute façon, il va falloir s'y adapter et l'intégrer dans le modèle économique si l'entreprise veut rester dans les pays concernés. Après, les règles ne seront pas les mêmes partout. Et Deliveroo, comme d'autres, compte sur le maintien du statu quo dans beaucoup de pays parce qu'il y a des décisions de justice qui vont parfois dans un sens et parfois dans l'autre. Donc, il y a ces éléments-là. En même temps, l'intégration de livreurs, ça reste par ailleurs de l'ordre du possible. Hein. C'est le choix qu'a fait un acteur comme Just Eat Takeaway, dont on a parlé un petit peu plus tôt et qui a un modèle un petit peu différent et qui va embaucher 4500 livreurs cette année en France, indépendamment de la règle. Et sinon, en effet, les livraisons de Just Eat Takeaway sont réalisées par les salariés des restaurants ou par un prestataire. Mais on voit bien qu'il peut y avoir aussi d'autres modèles. Mais ça va être quelque chose qui va avoir forcément un impact important et à suivre de près dans les prochaines années.
Avant l'introduction en bourse de Deliveroo, il y a eu un autre événement important dans l'histoire du groupe. C'est l'entrée d'Amazon dans son capital. C'était l'été dernier, 16% des actions. Alors, c'est beaucoup et en même temps, j'ai envie de dire que c'est presque trop peu. Que veut faire Amazon ?
C'est en effet beaucoup et peu en même temps. Mais c'était déjà considéré comme beaucoup par les autorités britanniques qui ont mis très très longtemps à donner leur feu vert pour ces fameux 16%. Pour Amazon, qui veut être présent partout et qui n'aime pas non plus les échecs, c'est d'abord une manière d'explorer le terrain en s'appuyant sur un acteur de poids. Parce que Amazon, quand il l'avait fait de son côté, cette expérience de la restauration, finalement avait échoué et avait dû arrêter son activité. Donc c'est une façon pour lui et pour le géant d'essayer de trouver comment il peut avoir sa place dans cet univers dont il s'est rendu compte qu'il n'était pas si simple d'accès que ça.
They're not doctors, nurses, carers or paramedics, but another set of key workers who've gone above and beyond to support Britain this year.
Voilà, ils ne sont pas médecins ou infirmiers, mais dans cette vidéo, Deliveroo dit merci à tous les livreurs d'UPS à Amazon, en passant par la Poste britannique et Deliveroo, d'avoir maintenu le lien en deuxième ligne, en livrant de la nourriture, des jouets, des fleurs et même du papier toilette. Ça n'a pas empêché des centaines de livreurs Deliveroo de manifester en vélo et en scooter et de faire grève le 7 avril pour demander une rémunération juste, une meilleure protection et des droits du travail élémentaires. C'était le jour de l'arrivée des petits porteurs sur le marché. La pression reste forte sur le secteur. Merci à Laurent Flalot et Clotilde Briard des Échos pour cette analyse d'un fiasco boursier. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les analyses, les décryptages et les cribles de la rédaction dans Les Échos et sur le site leséchos.fr.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.